France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Les romans changent-ils le monde? Pendant deux semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices et d'auteurs, de spécialistes et de spécialistes de la littérature d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage estival dans les romans qui ont changé le monde. Ce matin, entre 1957 et 1960, année de publication en anglais de Justine, Balthazar, Mount Olive et Cléa, qui forment les 4 volumes de ce que nous avons coutume d'appeler le Quatuor d'Alexandrie, du britannique Laurence Durrell, qui paraît en français aux éditions Buchet-Chastel, traduit par Roger Giroux en 1960. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durrell, avant même d'être Alexandrie, c'est un roman d'amour, de rêve, de politique, un roman de la ville d'Alexandrie qui est en Égypte et aussi ailleurs, quelque part dans un songe orientaliste, un poème grec entre la sensualité et la mélancolie d'un monde en train de disparaître, à travers une poétique complexe de chatoiements et de reflets où l'on n'en finit pas de tourner autour des personnages comme le soleil entre le palais de Racettine et Chadbi. Pour évoquer le Quatuor d'Alexandrie, nous avons la chance de compter sur la présence d'alexandrines et d'alexandrins de cœur ou d'imaginaire. Tout d'abord, Robert Solé. Robert Solé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain, vous êtes né au Caire, vous avez grandi en Égypte, vous avez fait toute votre carrière de journaliste au journal Le Monde. On vous doit les merveilleux romans égyptiens, le Tarbouche et le Phare d'Alexandrie, et un grand nombre d'essais historiques ou d'actualités sur l'Égypte, dont les derniers en date sont une biographie d'Anwar el-Sadat et il y a 2 ans d'Ismaïl Pacha, paru chez Perrin. Nous avons aussi avec nous Corinne Alexandre Garner. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite à l'Université de Paris-Nanterre et une grande spécialiste de l'œuvre de Laurence Durrell. Vous avez été la directrice de cette magnifique bibliothèque qui contenait le fonds d'archives de Laurence Durrell. Et depuis votre thèse consacrée justement au Quatuor d'Alexandrie, vous avez consacré un grand nombre de travaux à Durrell. Citons notamment « Dans l'ombre du soleil grec », une anthologie biographique de textes de Durrell paru dans la collection de la Quinzaine littéraire. Et Béatrice Comanger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, j'ai eu la chance de vous recevoir à ce micro pour un de vos récits, « Alger, rue des Bananiers ». Vous avez aussi, toujours aux éditions Verdier, consacré un texte à Laurence Durrell intitulé « Une vie de paysage ». Dans lequel vous racontez votre rencontre avec l'auteur du Quatuor d'Alexandrie à Sommières, en Provence, où il résida jusqu'à sa mort en 1990. Mais commençons, si vous le voulez bien, comme chaque matin, par entendre un extrait du texte « Justine », premier roman du Quatuor d'Alexandrie, lu par la comédienne Élodie Hubert.
La mer est de nouveau trop grosse aujourd'hui, et des bouffées de vent tiède viennent désorienter les sens. Au cœur même de l'hiver, on perçoit déjà les prémices du printemps. Un ciel de nacre pur jusqu'à midi, les criquets dans les recoins d'ombre, et maintenant le vent, dénudant et fouillant les grands platanes. Je me suis réfugiée dans cette île avec quelques livres et l'enfant de Mélissa. Je me demande pourquoi j'écris le mot « réfugié ». Les gens d'ici disent en plaisantant qu'il faut être bien malade pour venir se refaire dans un coin perdu comme celui-ci. Eh bien soit, disons si vous voulez que je suis venue ici pour tenter de guérir. La nuit, lorsque le vent hurle et que l'enfant dort paisiblement dans son petit lit de bois près de la cheminée, j'allume une lampe et je vais et viens en songeant à mes amis, à Justine et à Nessim, à Mélissa et à Balthazar. Pas à pas, sur le chemin du souvenir, je reviens vers la ville où nos vies se sont mêlées et défaites, la ville qui se servit de nous, la ville dont nous étions la flore, la ville qui jeta en nous des conflits qui étaient les siens et que nous imaginions être les nôtres, bien-aimée Alexandrie. Il a fallu que je vienne si loin pour comprendre tout cela. Habitant ce promontoire désolé, chaque nuit arraché aux ténèbres par Arcturus, loin de la poussière et des relents de chaux de ces après-midi d'été, je comprends maintenant qu'aucun de nous ne peut être jugé sur ce qu'enfanta le passé. C'est la ville qui doit être jugée, mais c'est nous, ses enfants, qui devons payer le prix.
Nous venons d'entendre le début de Justine, premier volume du Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, et notamment cette voix de ce narrateur d'Arlet, qui au moment où le roman s'ouvre, ne se trouve pas à Alexandrie, ne se trouve plus à Alexandrie. Alexandrie est un souvenir pour lui, il est dans une île grecque, en compagnie de cet enfant, dont il dit que c'est l'enfant de Mélissa. On va petit à petit comprendre qui sont tous ces personnages dont nous avions entendu les noms, Balthazar, Justine, bien sûr, Nessim, et puis ce premier personnage, peut-être le plus important, bien plus qu'un décor, dont on nous dit que c'est Alexandrie elle-même qui est le cœur du texte, Robert Solé.
Oui, parce que dans le Quatuor, Alexandrie n'est pas seulement un décor qui est à la fois merveilleusement rendu et qui souvent ne correspond pas à la réalité que nous connaissons. Il y a de merveilleuses descriptions du lac Maréotis, du désert, des bas-fonds d'Alexandrie, des odeurs, des bruits, des couleurs, tout ça. Et en même temps, je pense que dans le Quatuor, Alexandrie est aussi un personnage. Un personnage de chair, de pierre, un personnage de mémoire, un personnage mythologique, c'est tout ça à la fois.
Béatrice Comanger, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ce début du
cet incipit du Quatuor ? Moi qui ai suivi Laurence Durel dans ses paysages, déjà, il commence par ça. Il commence par une vision du ciel. Ce que je voulais dire, c'est que je ne peux pas m'empêcher de voir l'île. C'est à Chypre qu'il a écrit ça. Il a commencé à y penser carrément en 37. Il voulait écrire le livre des morts, déjà. Et finalement, il l'écrit presque 15 ans après, quand il sent qu'il a quelque chose qui va naître en lui, et c'est pas du tout. Et c'est la ville, ce qui est important pour Alexandrie, c'est que c'est la ville qui va le délivrer de ce fœtus qui sent grandir en lui. Et grâce à ses couleurs et à tout ce qu'on dit, et il dit qu'il veut écrire un livre qui pourrait se rêver lui-même. Et je crois que ce qu'il nous a offert, c'est qu'il nous a fait rêver de la ville.
Corinne Alexandre-Guerlain. D'ailleurs, est-ce qu'il l'a écrit chronologiquement, en fait ? Est-ce que ces premières pages que nous lisons, celles de Darley, c'est-à-dire un peu le double de Durel dans le Quatuor, dans cette île, est-ce que ça correspond vraiment aux premières pages ?
Alors, d'abord, il faudra aller voir dans les manuscrits, et des manuscrits, il y en a tellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes pour l'écriture finale, j'allais dire, de ces romans. Moi, je dirais qu'il nous tend plutôt un miroir. Et je pense que si les lecteurs qui sont entrés dans le Quatuor d'Alexandrie, qui d'une certaine façon ne l'ont jamais quitté, c'est parce que ils ont vu dans cette ville dont Robert Solé dit que c'est un personnage, et d'une certaine façon c'est vrai, c'est un personnage qui nous renvoie à nous-mêmes. Et je crois que ce qui a fait que le Quatuor d'Alexandrie a été un livre si important, je dirais dans les années 60 et 70, c'est parce que il nous invite non pas à la découverte des personnages, non pas à la découverte de la ville, mais à la découverte de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passait dans les années 60 et 70 ? On est en pleine révolution sexuelle, on est à la veille de 68. Je veux dire, les jeunes se cherchent, et ils se cherchent de façon très active, et ils lisent encore. Alors on pourrait dire en même temps que moi je pense qu'en accompagnant les jeunes aujourd'hui, ils seraient eux-mêmes capables de se retrouver dans cette ville qui leur offre finalement toutes les facettes dont on a besoin pour voir non seulement la réalité, mais également la vérité qu'on essaye de trouver en soi.
Oui, mais il y a aussi quand même, dans ces plus de 1000 pages du Quatuor d'Alexandrie, des personnages très construits qu'on va développer au fur et à mesure.
Bien sûr.
Même Alexandrie elle-même, si on la considère comme un personnage, est aussi très construite d'énormément d'époques, de temps, de voix aussi littéraires, poétiques, de personnages, et qui crée finalement un objet littéraire. Vous l'avez dit, Robert Solé, qui n'est peut-être pas l'Alexandrie qu'on pouvait voir même à l'époque.
Mais c'est-à-dire que le problème, c'est qu'Alexandrie, c'est un nom magique qui évoque à plein de monde beaucoup de choses, et en même temps, c'est un malentendu. C'est un malentendu parce qu'il y a, je pense, trois Alexandries. Il y a l'Alexandrie de l'Antiquité, cette ville toute puissante qui était incarnée par son phare, cette tour lumineuse, sa bibliothèque. Cette ville cosmopolite où il y avait des Égyptiens, des Juifs, des Grecs, etc. Et puis, un séisme a fait tomber le phare, un incendie a brûlé la bibliothèque et Alexandrie est devenue une petite ville décadente. Quand Bonaparte arrive en 1798, il trouve une petite ville de rien du tout. Et puis, cette ville va ressusciter au début du 19e siècle et devenir cette grande ville cosmopolite avec des Grecs. Alors des Grecs, on a l'impression qu'ils ne sont jamais partis, ils sont là. Des Grecs, des Français, des Anglais, des Italiens, des Arméniens, des Syro-Libanais, des Juifs de toutes origines. Et c'est une deuxième image d'Alexandrie, si vous voulez. Et aujourd'hui, on a une troisième image d'Alexandrie. Alexandrie, c'est une mégapole, de plusieurs millions d'habitants, une ville industrielle, une ville arabe, qui n'a presque plus rien gardé de ce cosmopolitisme, et où il n'y a pas de vestiges. C'est Durel, je crois, qu'il parle de capitale de la mémoire.
Ouais.
Mais cette capitale, la mémoire, n'a pas de vestiges, contrairement au Caire. Au Caire, vous avez pyramides, vous avez plein de choses. Là, il n'y a rien.
Il y a les catacombes, quand même, avec Alexandrie.
Non, très peu de choses. J'ai beaucoup d'amitié pour les archéologues comme Jean-Yves Empereur qui ont fait un travail formidable. Mais non, c'est vrai, Alexandrie, c'est une idée. Il faut beaucoup d'imagination quand on est sur place pour vivre vraiment Alexandrie.
D'autant plus qu'elle a été détruite d'une certaine façon par les générations contemporaines, que la maison de Durel a été détruite, que les architectes qui s'employaient à conserver le patrimoine se sont battus pour rien.
Oui, la maison de Durel en 95, moi j'y étais allée, je crois, pour justement faire un reportage sur quand un buste avait été trouvé dans le port d'Alexandrie par Jean-Yves Empereur. Mm-hmm. Et j'avais voulu voir cette maison de Durel et c'était très émouvant parce qu'il y avait un gardien.
Alors, Durel passe quelques mois, un peu moins d'une année à Alexandrie avant la guerre.
Pendant la guerre. Ah. Quand il arrive en Égypte, il arrive au Caire. Et puis après, il est nommé à Alexandrie. Et c'est là qu'il a un déclic, justement, quand il entend toutes ces langues cette ville mythique. Il se dit, c'est là qu'on peut créer un mythe. Et c'est quand une ville devient mythique qu'on peut écrire un livre. Et vraiment, en 95, il y avait un vieil arabe dans un fauteuil, sans doute, qui était de la maison et qui essayait de garder la maison parce qu'il savait qu'on voulait la détruire et ça a raté. Je crois qu'elle est détruite. Elle l'est. Oui.
Et puis on s'y reconnaît plus. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'Alexandrie cosmopolite.
Mais ça, c'était vrai dès la publication du Quatuor. C'est Durel lui-même qui raconte qu'il a reçu un jour une lettre d'un touriste américain.
Tout à fait.
Qui est allé avec le Quatuor sur place, qui n'a rien retrouvé du Quatuor et qui lui a dit rembourser.
Oui. Et Durel répond, il dit, mais je sais très bien, j'ai pas décrit une ville réelle.
Oui, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est-à-dire qu'il dit que c'est une ville complètement inventée, mais dans Justine, quand on lit Justine, à un moment, il dit « il n'y a que la ville qui est réelle ».
Tout à fait. Non, je veux dire, les gens qui arrivent avec une carte, comme on fait pour Dublin, pour Joyce, ils sont déçus parce qu'ils ne retrouvent pas les rues. Et Durel, là, il fait amende honorable. Il dit « c'est vrai, il n'y a pas les rues, mais finalement, la ville est réelle ». Moi, je crois qu'il, justement, à force de mythe, il l'a rendue plus réelle que les personnages.
Mais alors, justement, c'est ça qui est passionnant, parce qu'on est dans la littérature. Et alors, c'est comment est-ce que ce Quatuor d'Alexandrie, finalement, participe à la construction tellement à la construction d'une Alexandrie qui a peut-être existé, peut-être pas, à tel point qu'un touriste américain vient avec le livre en disant « Mais où se trouve cette ville que je ne vois pas ?»
Oui, mais il aurait rien vu. J'allais dire, il aurait rien vu de toute façon, parce que c'est une drôle de façon d'aborder la littérature. Parce que les Alexandrins, en tout cas moi que j'ai connus, que ce soit Jacques Assoun, Chaïn, que j'ai entendu plusieurs fois parler d'Alexandrie, ils se retrouvent dans cette création mythique qui n'est quand même pas basée uniquement sur du sable. Et en particulier, le contexte de la guerre me semble un contexte assez important. Quand Justine part en Palestine, par exemple, les armées allemandes sont à El Alamein et on se demande ce qui va se passer. Donc on aurait tort d'ignorer, et je crois que beaucoup de gens l'ont fait, en fait, ce côté, d'une part, historique, puis le côté roman d'espionnage aussi. Moi, je trouve que écrire un livre-monde comme ce qu'il a fait, dont les deux thèmes principaux seraient l'amour, et puis dans les années 70, plus la politique malgré tout, même si elle est bien camouflée.
Pas tellement, c'est très
important. Non, elle est très présente quand même, la politique.
Elle est quand même très présente.
Elle est beaucoup moins présente que dans Judith, par exemple. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est en partie camouflée, mais la guerre est extrêmement présente. Et la fameuse conspiration autour de la livraison des armes, je suis sûre que Robert Solé aurait des choses à nous en dire.
Oui, non, mais tout ça est vrai, effectivement. Alors, ce qui est un petit peu quand même paradoxal, c'est que Durel n'a pas choisi d'aller en Égypte, comme vous le savez beaucoup mieux que moi. Il y va parce qu'il est nommé là, il ne peut plus rester en Grèce, les Allemands ont envahi la Grèce. Il arrive, il est très déçu quand même. Il est très déçu, vous qui avez étudié la correspondance avec Miller.
Oui,
il y a une lettre terrible et qui ne date pas de son arrivée, mais de 1944. Il part d'une ville lépreuse,
d'une
ville, j'avais noté ça, d'une mer plate, d'un brun sale, sans vagues, pas de musique, pas d'art. Et il ajoute ceci, si l'on pouvait écrire ici une seule ligne qui est une odeur humaine, on serait un génie. C'est Durel qui écrit ça. Bah là, il est un génie, parce que...
Il l'est. D'ailleurs, on va écouter, si vous le voulez bien, Laurence Durel lui-même nous donner une petite définition de ce qu'était pour lui le Quatuor d'Alexandrie.
C'est un peu difficile à expliquer exactement avec les quatre volumes, vous savez, parce que les premiers deux sont l'autobiographie d'un jeune poète, anglo-irlandais comme moi, qui s'appelle Darley et qui se trouve en Alexandrie, qui tombe amoureux de Justine. Alors, le volume Justine, c'est les aperçus de Darley. Et le deuxième volume de Balthazar, c'est une correction du texte original, vous savez. Avec le troisième, je peux dire franchement que c'est... Moi, je suis responsable vraiment seulement pour le troisième volume.
C'est le Mantolive.
Oui, c'est une narration pure. Dans Mantolive, vous trouvez les caractères comme Darley, qui était,
le narrateur.
Le narrateur du premier. Il devient objectivement un personnage dans le troisième. Et dans le quatrième, j'espère que Darley reviendra en Alexandrie après un certain... deux ans, trois ans après, et recommence de revoir les situations avec tous les changements que le temps a apportés.
Nous voulons entendre Laurence Durel lui-même expliquer les relations qu'entretiennent les différents romans entre eux dans le Quatuor, dans une archive de la RTF, enregistrée le 4 décembre 1959, c'est-à-dire avant la parution de tous les volumes en français. Et c'est pour ça qu'il emploie le futur en disant « Darley reviendra à Alexandrie dans Cléa, le quatrième volume ».
Il espère. Justement, je pensais qu'il allait expliquer ça, parce que son but, c'était quand même beaucoup plus abstrait. Durel est quand même vraiment, il a besoin d'une vision philosophique de la vie, il est quand même intéressé par tout ça. Et à Miller, il écrit à un moment, je crois que je vais réussir, je veux tuer cette dimension du temps. Et donc les trois premiers volumes, c'est l'espace, on ne s'occupera pas du temps. Et ensuite, puisque 4 ou 5 ans seront passés, on introduit la dimension du temps. Parce que je crois qu'il y a deux figures qui sont absolument indispensables de rappeler, puisqu'ils ont guidé Durel, parce que pour lui, il voulait écrire un roman qui n'aurait pas pu être écrit avant Freud et avant Einstein. Donc c'est vraiment
et
le
avant
roman...
Picasso.
Avant Picasso pour autre chose.
Mais enfin,
oui, mais ça, il le dit rarement. Mais le Freud et Einstein, c'est pour la construction. Parce que pour lui, Einstein a fait exploser toute notre notion du temps en montrant que ça n'avait de rapport qu'avec l'espace, et Freud a un peu démoli tout le roman psychologique en introduisant l'inconscient, le subconscient, et il n'y a que ça qui l'intéresse. Et c'est pour ça qu'il a besoin de 3 volumes pour faire jouer ses personnages.
Mais en même temps, moi, ce que je me dis quand je l'entends, je me méfie un peu, peut-être, de la réalité de ce projet au moment où il commence l'écriture. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même qu'au départ... Quand on le lit, en tout cas, on se rend compte qu'il y a Justine et qu'à partir de Justine, peut-être, il a commencé à imaginer, à se dire « Ah, mais qu'est-ce que pourrait être le fait de revenir sur ce texte dans Balthazar et de décliner un peu comme ça ce quatuor et ces situations de 3 façons différentes ?» Et puis ensuite, il s'est dit « Ah, mais pourquoi moi-même ne reviendrais-je pas à Alexandrie plus tard ?» Donc, Cléa, qu'en pensez-vous ?
C'est une expérimentation, c'est sûr. Cela dit, Durel, très jeune, a fait le projet des livres de sa vie. Ça va quasiment jusqu'à son dernier livre. Il explique absolument ce qu'il va essayer de faire. À 20 ans, il parle presque déjà du quintet d'Avignon. Et ça, c'est très étrange. C'est-à-dire que, en gros, moi je dirais c'est un poète philosophe, qui essaye de nous présenter une ville-monde, qui termine son œuvre par nous présenter un psychanalyste et un écrivain qui vont vivre un parfait amour et pour la première fois vont pouvoir faire un enfant. C'est-à-dire que vraiment, je crois que dès le départ, il sait ce vers quoi il va. Le problème, c'est qu'il ne sait pas exactement comment il va y aller.
Et donc, qu'est-ce qui débute le texte, en fait, l'écriture de Justine ? C'est Justine, ce personnage, cette juive fascinante ?
Ah ben c'est Ève ?
Non.
Alors Justine, moi,
mais là, je ne suis pas d'accord
avec Justine,
avec
Ève et Cléa et Claude, ça c'est
ce
évident.
Ce sont des facettes d'un même personnage. C'est-à-dire que le quatuor n'arrête pas de nous montrer Darley et Perswaddon, c'est aussi les deux facettes d'un même personnage. Donc Justine, d'une certaine façon, on peut dire que c'est Ève, on peut retrouver bien sûr des points communs, mais surtout, c'est une partie des questions que Durell se pose sur qu'est-ce qu'une femme. Il n'était pas le seul à se la poser, Freud s'était posé avant lui. Mais c'est vraiment ça qu'il cherche. Alors le nombre de femmes, vous avez dû en rencontrer aussi, qui se sont dit être le modèle de Justine, on en a tous rencontré. C'est très étrange. Mais effectivement, nous, en tant que lecteurs, on accroche sur le mystère, sur l'énigme.
Voilà. Robert Solé sur Justine.
Oui, sur Justine et les autres. C'est-à-dire que Laurence Durell disait lui-même que son livre était une sorte de mobile de Calder. Hein, vous avez parlé de facettes. Oui. Effectivement, ce quatuor, c'est comme un diamant avec des facettes, la lumière, etc. Il a dit aussi qu'il s'était inspiré. Alors, l'a-t-il vraiment dit au départ ou après coup? Je ne sais pas. En tout cas, il a dit qu'il s'était inspiré de la théorie de la relativité. L'espace et le temps sont complètement liés et ils sont relatifs. Et on a là quatre romans qui ne se suivent pas forcément. Chacun vient démolir parfois une vérité qu'on a dite avant, n'est-ce pas?
Oui.
Il a parlé aussi de poèmes symphoniques. Voilà, c'est une symphonie. Ou un quatuor, parce qu'il y a un élément musical dans tout ça.
Il y a le motif de la fugue.
Voilà.
C'est une fugue, le quatuor d'Alexandrie. Il était musicien, par ailleurs.
Fugue, alors qu'est-ce qu'on fuirait? Vers où on s'en irait?
Alors, la fugue a deux sens. Hein. On peut fuir quelque chose, on peut fuir vers quelque chose, mais c'est surtout, moi, je pense, aux thèmes musicaux qui sont repris dans un autre registre, dans la suite d'un morceau de musique.
Et moi, variations.
Voilà, les variations. Et vous parliez au départ, on a écouté le tout début du quatuor, c'est cette sensualité, le bruit du vent qu'on sent sur soi-même, la chaleur. On ressent des choses qu'on ressent également par ailleurs dans certains livres de Foster qu'il avait complètement transportés, comme Chaleur et poussière, par exemple. Il y a quelque chose comme ça.
Oui, et puis il y a le guide, ce fameux guide d'Alexandrie qui écrit Foster.
Absolument.
Et que Durell cite d'ailleurs beaucoup. À plusieurs reprises, où Foster a cette expression assez magnifique sur Constantin Cavafy, le poète grec, qui est aussi une des sources d'inspiration du quatuor.
Tout
il dit,
à fait.
Il fait un léger angle avec l'univers. Et l'Alexandrie de Laurence Durell peut-être fait-elle aussi un léger angle avec la réalité, tout simplement, oui. Béatrice Comanger.
C'est-à-dire, je crois que c'est dans le quatuor qu'il dit finalement la vie est une fiction. Il arrive à cette conclusion que la vie est une fiction. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu faux de vouloir effectivement dire Justine c'est Ève. Mais même dans le concret de la biographie, par exemple, effectivement, quand ils sont au Caire, Ève et la petite vont aller en Palestine. Donc ça part d'elle, mais justement, ce qu'il voudrait arriver.
Ève, c'est pour les auditeurs.
Oui, Ève, ce serait Justine. C'était sa femme.
C'est Nancy qui part en Palestine.
C'est Nancy,
avec sa
Ève
première
encore.
Fille, voilà. Pénélope.
Et après, c'est Nancy qui part. Il est marié à Nancy, oui, quand il est là-bas.
Oui.
Et Ève, il la rencontre à Alexandrie, justement. Mais surtout, ce que je voulais lire, c'est qu'il dit, et ça, je trouve que c'est essentiel, notre personnalité est une illusion. Et il veut faire passer ça au lecteur. On n'est pas comme ci, comme ça. Là, il dit, notre sentiment de la réalité est conditionné par notre position dans l'espace et le temps, et non par notre personnalité, comme nous plaisons à le croire. Donc ça, c'est absolument essentiel. Il veut faire passer la contradiction avant tout.
Oui, puisqu'il peut dire que nous sommes les enfants de notre paysage.
Parlons de paysage, Alexandrie. Justement, nous allons aller à la plage d'Alexandrie. Mais cette fois-ci en musique.
شط اسكندريه يا شط الهوى، رحنا اسكندريه يا رمانا الهوى، يا دنيا هنيه او ليالي رضيه، احمل هبعنيا شط اسكندريه، شط اسكندريه يا شط الهوى، رحنا اسكندريه يا البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية شط اسكندرية
شط اسكندرية يا شط الهوى احنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هنية
هنية
وليالي راضية
راضية
احملها بعيني شط
Nous venons d'entendre la grande chanteuse libanaise Fairouz chanter Chante Scandaleia à la côte, la plage d'Alexandrie, plage de l'amour justement et de la mémoire et du souvenir et des adieux. Et parce que le quatuor, on va dire un des premiers thèmes de ce quatuor, pour revenir à la musique, si on parle de fugue et de variation, c'est celui de l'amour. Et c'est bien évidemment un roman de la passion. Béatrice Comanger.
Ah oui, moi peut-être parce que je l'ai lu un peu tard, disons, j'avais 20-22 ans, et ce qui m'a intéressé, c'est les personnages de femmes. Enfin, essentiellement, bon, Mélissa, elle reste toujours un peu dans l'ombre, mais Justine et Cléa. Et justement, quand je suis arrivée à Alexandrie la première fois, je me disais, mais est-ce que je serais allée à Alexandrie sans Justine et Cléa? Parce que c'est vraiment, en plus, après, quand j'ai mieux connu sa biographie, on peut mieux comprendre la jeunesse des créations de ces personnages. Et la ville, finalement, je crois qu'il a toujours eu envie d'explorer l'amour, et c'est la ville d'Alexandrie qui lui a permis d'en faire un diamant comme ça, multifacette, de chaque personnalité.
Donc et Cléa, pour expliquer aux auditeurs, oui. Cléa, c'est ce personnage assez fascinant qui est développé dans le dernier volume du Quatuor, qui est cet artiste peintre, donc on ne va pas dévoiler son destin, lui aussi assez tragique, mais qui est un personnage magnifique qui s'oppose en quelque sorte un peu à Justine d'une certaine façon, non? D'ailleurs, Darley lui-même, dans le dernier volume, quand il revoit Justine, elle le laisse un peu froid, finalement, Robert Solé, non ?
Je ne vais pas entrer dans les... C'est tellement compliqué. Non, mais moi, j'ai eu entre les mains pour la première fois le quatuor quand j'étais jeune, et j'ai été désorienté. J'étais désorienté, d'abord par la structure de ce livre, qui est complexe, qui est compliqué quand on n'est pas prêt à lire ces 1000 pages, et désorienté ensuite parce que je ne retrouvais pas mes propres souvenirs d'enfance d'Alexandrie et je ne retrouvais pas surtout les souvenirs de mes parents et de la génération de mes grands-parents, n'est-ce pas, de cette Alexandrie joyeuse, cosmopolite, lumineuse, tournée vers l'Europe. C'était pas les bas-fonds d'Alexandrie. Bon. Mais ensuite, j'ai pas voulu relire le quatuor quand j'ai commencé à écrire moi-même sur l'Égypte. Je me suis dit, après un tel chef-d'œuvre, je vais être paralysé complètement. Et je n'ai donc pas relu à ce moment-là. Et c'est par la suite, si vous voulez, que j'ai, ayant étudié l'histoire de l'Égypte, ayant moi-même écrit, etc., que je me suis replongé dedans. Et je suis toujours frappé par ce parallèle entre ce qu'on a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette création littéraire. C'est une création littéraire, faut pas. Et puis la réalité, les dates et tout. Ce quatuor, il commence à paraître le lendemain de la crise de Suez. Enfin, et la crise de Suez, c'est quoi? C'est l'expulsion d'Égypte de tous les Français, tous les Anglais, des Juifs. Et ça va être suivi de l'exil de toutes les autres communautés qui forment cette Alexandrie cosmopolite, c'est-à-dire les Grecs, les Italiens, les Syro-Libanais, etc. Et c'est là que Alexandrie prend une toute autre tournure et qui rend si difficile aujourd'hui la coïncidence entre la création littéraire et la réalité de cette ville.
Oui, parce que Alexandrie, à travers ce roman, devient, en dehors du fait que ça devient un miroir, ça devient le topos de la nostalgie. De la nostalgie du bien-vivre, de la nostalgie de l'amour, de la nostalgie des communautés. Qui vivaient ensemble, du cosmopolitisme, non seulement, j'allais dire, pour Durel, mais finalement pour ses lecteurs. On a tous perdu quelque chose. On a tous perdu notre enfance. On est tous exilés de l'enfance. Alors on peut situer cette enfance de façon métaphorique à Alexandrie, mais c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire que il y a une espèce de désespoir total, et puis un effort créatif et magnifique pour reconstituer quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. Il me semble que Ungaretti en parle également dans un de ses poèmes.
Ungaretti, poète italien d'Alexandrie.
Voilà.
Oui, effectivement, il y a certaines mélancolies d'une Alexandrie perdue. Bah, on pourrait dire que peut-être...
Quand on lit maintenant, surtout.
Oui, enfin, peut-être quand on lit aujourd'hui. Mais on ne peut pas oublier non plus que dans le Quatuor d'Alexandrie, un des poèmes tutélaires, c'est le fameux poème de Cavafy, qui s'appelle « Le Dieu abandonne Antoine », et qui dit « Et tu dis adieu à Alexandrie que tu quittes ».
Qui te quitte.
Et tu dis adieu à Alexandrie qui s'en va.
Voilà.
Donc effectivement, c'est bien un livre un peu sur la perte de cette Alexandrie-là, même si Durel, au moment où il l'écrit, ne peut pas savoir ce qui va se produire, bien évidemment.
À ce point, oui, peut-être, mais en même temps, il commence en 53. Effectivement, ce qui est frappant, c'est quand il en parle là, dans le Quatuor, c'est toutes ces langues qu'on entend, mais il parle de l'italien, il les détaille, et l'arabe, invisible. Parce que personne... Aucun ne parlait arabe, presque, de tous ces alexandrins, italiens, etc.
Si, Nessim, apparemment, est censé être non, mais je parle là, plutôt
historiquement. On a l'impression, quand on arrive comme lui en anglais, lui qui a appris le grec tout de suite et qu'il est arrivé en Grèce, il n'a pas appris l'arabe. Et l'arabe est un petit peu... Il y a tellement de langues, et normalement, c'est quand même la langue dominante. Est-ce que ça, c'est vrai?
Alexandrie a toujours été, dès l'origine, d'ailleurs, dès sa création par Alexandre, à côté de l'Égypte.
Oui, Alexandrie ad Egyptum.
Et même dans les années 1950 encore, les snobs alexandrins, quand ils allaient au Caire, ils disaient « je pars en Égypte ». Bon, il y a toujours eu ça, et Alexandrie, la langue française à Alexandrie, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même jusqu'au tout début des années 1960, la langue française avait une place considérable à Alexandrie, alors que c'était un pays arabe occupé par les Anglais. Oui. C'est très étonnant, cette langue française était même une langue de liaison entre les communautés. Un Italien qui voulait parler à un Grec, qui lui parlait souvent en français. Ça, c'était très important.
Le fameux Collège Saint-Marc.
Il existe toujours.
Il existe toujours.
Collège des Frères, il est toujours là.
Et il
a formé des générations. Vous avez très justement, Corinne Aissant-Garner, parlé de la nostalgie de l'enfance. Alors, on la retrouve chez un Alexandrin qui est Chahine, Youssef Chahine, le cinéaste, qui en a fait des films. Seulement, il est quand même un cas particulier. Il est un cas particulier.
Alexandrie, pourquoi ? Et Alexandrie, encore et toujours.
Oui, Chahine est quand même... Il a un pied en Occident, quand même. Les Égyptiens, il faut bien le dire, ont très peu lu le Quatuor d'Alexandrie. Et ceux qui l'ont lu, en général... Il y a beaucoup d'exceptions, mais en général, ne l'ont pas aimé. Ils n'ont pas retrouvé leur ville.
Édouard El-Karat était extrêmement critique.
Il était critique en disant c'est pas des vrais Égyptiens, c'est des demi-Égyptiens, etc.
C'est vrai qu'Alexandrie est un peu hors sol, comme on dirait aujourd'hui, qui flotte comme ça un peu au-dessus de la Méditerranée, au-dessus de l'Égypte, dans un monde qui n'est pas celui de l'Égypte réelle, même des années 30 ou 40, ça c'est certain. Et c'est ce que essaye de faire justement Édouard El-Karat, c'est un très grand auteur alexandrin, dans Les filles d'Alexandrie, dans Sa terre et de Safran, c'est d'essayer justement de remettre un peu du rêve et du sentiment dans une Alexandrie bien plus réelle, bien plus arabe finalement que celle de Durel. On peut reprocher à Durel peut-être un certain côté un peu orientaliste là-dedans, dans le sens où c'est une vision... justement, qui passe par le rêve, la littérature, même si lui-même a effectivement vécu à Alexandrie. Et son Alexandrie est sans doute peut-être plus rêvée et littéraire que...
Je trouve. Mais ça rejoint ce que vous avez rappelé très justement. J'avais un petit peu oublié, alors que j'en ai même parlé de ça, de cette Alexandrie ad Egyptum d'Alexandre le Grand. Ça a toujours été quand même Alexandrie ad Egyptum. Je l'avais beaucoup comparé à Alexandrie à Trieste, quand on disait Trieste ad Italia. Et c'est quand même une ville, maintenant je pense qu'elle rejoint, mais je ne sais pas si vous en pensez.
Elle rejoint complètement.
Elle rejoint
aujourd'hui,
complètement.
Alexandrie, c'est la deuxième ville d'Égypte.
Mais
c'est
en 95, ce n'était pas encore le cas.
Alors il reste des traces de ce cosmopolitisme que Durel a connu, c'est-à-dire les noms des plages, par exemple. Vous avez des noms italiens, des noms français, des noms anglais, et des noms arabes, bien entendu, les stations de tramway. Mais franchement, c'est très peu de choses.
Il reste l'hôtel Cécile, il reste la maison Kadhafi.
Oui, mais il faut voir ce qu'est devenu l'hôtel Cécile. Enfin, avec son restaurant chinois au sommet, etc.
Ben ça, on ne savait pas. Non, il fallait surtout 2000, pas nous le dire.
En 2000, ça, c'est, en 80, je crois que c'est la dernière fois, c'est en 95. On sentait, il n'y avait pas Stroudis, il y avait beaucoup de choses.
Mais il y a toujours. Ils sont là, simplement, ils ne ressemblent plus à rien.
Ils ne ressemblent plus à rien.
Vous savez, il faut mettre en garde les gens qui partent, les touristes qui partent à Alexandrie aujourd'hui. Il faut les pousser à lire Durrell, mais il faut surtout leur dire de ne pas essayer de retrouver
le quatuor.
Peut-être le lire au retour, tout simplement, pourquoi pas. Et pour en revenir justement au quatuor et à Durrell, peut-être plus précisément, on parlait d'amour, et on peut lire le quatuor aussi, vous avez nommé Freud tout à l'heure, un peu comme un catalogue des formes d'amour. Oui. Un catalogue de formes d'amour et de sexualité, de rapports amoureux, passionnés, charnels, des variations justement sur ce thème-là, de la rencontre, et presque même aussi de la sexualité, de l'accouplement, d'une certaine façon.
Il parle bien des cinq sexes que seul le grec démotique peut décrire. Donc c'est vraiment une exploration de l'amour moderne. Et c'est en ça, je pense, qu'il a énormément plu au public, enfin j'allais dire à notre génération quand on l'a découvert à 20 ans, ou autour de 20 ans. Moi, ce qui me semble aussi intéressant, c'est que, en fait, Durrell était dans la quête et il ne savait pas toujours ce qu'il écrivait. On en a pas mal discuté ensemble, en particulier, alors vous parliez de l'amour, c'est vrai. Il était en recherche. Il parle de la Provence sexuelle qu'on trouve à Alexandrie dans ses lettres à Miller. Il est dans une espèce d'excitation permanente autour de toutes ces belles femmes qu'il rencontre. À l'époque, il est fort beau, très séduisant. Mais il va se passer aussi des choses intéressantes autour de la paternité, sur laquelle il va écrire dans le quatuor sans vraiment être conscient de ce qu'il en dit. Et ça, c'est intéressant aussi.
Mais Darley, par exemple, n'est pas père, mais a quand même la garde de l'enfant de Mélissa, qui va l'accompagner. Oui. Et alors, justement, c'est une garde assez étrange parce que cet enfant est là, mais il dort tout le temps, il n'agit pas, il n'est pas tout à fait réel. C'est juste un peu quand même un objet. On ne sait pas comment il s'appelle, d'ailleurs. Il s'appelle l'enfant. Ouais. Alors, j'espère que ça ne dit
quand
pas quand même la relation avec la paternité.
Je pense que là, c'est vraiment, il écrit à Chypre, dans cette maison que j'ai visitée, là, à Kyrenia. Il est avec cet enfant, parce que Ève est repartie, il est avec cet enfant. Et dans le roman, elle n'est pas trop ennuyeuse, mais dans la vie, souvent, c'est un peu lourd, mais il peut écrire quand elle dort, enfin, mais il est seul. Moi, je pense que c'est pas tout écrivain véritable, il ne sait pas ce qu'il va écrire, quand même, pas trop. C'est pour ça que vous demandiez au début, c'est vrai qu'en relisant ce qu'on a écouté, je me disais, mais est-ce qu'il avait vraiment tous les personnages comme ça au début de Justine ? Moi, je me demande si...
Mais il a commencé aussi à les créer dans ses notes.
Il les a créés.
Il y a deux ou trois manuscrits qui s'appellent Justine. Il y a Justine 1, Justine 2, Justine 3. Après ça, il a recomposé. Ensuite, on l'a trouvé... c'est brouillon dans ses carnets de notes, mais je veux dire, c'est pas venu juste comme ça.
Non.
Ce qui est intéressant, quand je parlais de paternité et d'enfant, c'est qu'il ne s'était pas rendu compte que dans le quatuor, il n'y a jamais une femme et son enfant qui vivent en même temps. Soit l'enfant est mort, l'enfant de Justine qui a disparu, soit il est vivant et c'est Mélissa qui est morte. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une coprésence impossible de la femme et de l'enfant. C'est quand même assez intéressant quand on pense aux déclinaisons de l'amour, je trouve.
C'est-à-dire que là, pendant qu'il l'écrit, quand même, Ève, elle n'est pas avec son enfant.
Oui, mais
ça compte, moi je crois profondément.
Oui.
Mais ce que je voulais dire comme phrase, là, parce que je l'ai retrouvée justement sur l'amour, et qui rejoint ce que disait sur l'illusion de la personnalité, quoi, qu'a pu démontrer Freud finalement, et dit la personnalité comme quelque chose de possédant des attributs fixes, c'est une illusion, mais une illusion nécessaire, et là il souligne, si nous voulons aimer.
Ah, c'est beau.
Oui.
On va écouter un deuxième extrait, si vous voulez bien, du Quatuor d'Alexandrie, lu par la comédienne Élodie Hubert.
Je suppose, écrit Balthazar, que si vous vouliez maintenant incorporer d'une manière ou d'une autre tout ce que je vous apprends là dans votre manuscrit de Justine, vous vous trouveriez en présence d'un livre assez curieux. Ce serait une histoire racontée par couches successives, en quelque sorte. Sans le vouloir, je vous ai fourni une forme assez peu conventionnelle, assez proche de l'idée qu'avait Percy Warden d'une suite de romans comportant des panneaux coulissants, comme il les appelait. Ou peut-être comme un palimpseste médiéval sur lequel des vérités de divers ordres ont été déposées les unes par-dessus les autres, les unes oblitérant ou peut-être complétant les autres. moines industrieux effaçant une élégie pour faire place à un verset des Saintes Écritures. Je crois qu'il ne serait pas si mauvais d'appliquer une telle méthode à la réalité d'Alexandrie, ville sacrée et profane tout à la fois. Entre Théocrite, Plotin et les Septante, on se meut sur des plans intermédiaires qui sont aussi bien ceux de la race que de toute autre chose. Quand nous disons les Coptes, les Grecs et les Juifs, ou les Musulmans, les Turcs et les Arméniens. Ai-je tort ? C'est là le lent accroissement alluvionnaire sur place du temps lui-même. De même, la vie dépose sur le visage des individus, couche après couche, les rides successives de l'expérience où il est absolument impossible de discriminer la part du rire et celle des larmes. Déjection de l'expérience sur les sables de la vie.
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Déjection de l'expérience sur les sables de la vie. On vient d'entendre donc un deuxième extrait, extrait de Balthazar, où on voit à la fois la façon qu'a Laurence Derel de construire le quatuor, c'est-à-dire les réflexions de Balthazar sur le manuscrit de Darley, et puis ce jeu de paravent, de regards très différents autour d'un même objet. La stratification des textes, c'est-à-dire des images d'Alexandrie dans le temps, depuis l'Alexandrie de l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui, et puis ce jeu entre le sacré, le profane et le rire, Corinne Alexandre Gamin.
Les larmes.
Le rire et les larmes.
Parce que ce dont il est question, c'est comment survivre à la mélancolie. Et l'écriture du quatuor avec toutes ces histoires d'amour qui s'imbriquent les unes des autres, c'est aussi ça. C'est, comme disait Durel, creuser la mort poétiquement. C'est-à-dire, c'est se trouver soi-même à travers les autres. Alors, comme il disait des trois femmes, la passion pour Justine, la souffrance pour Mélissa et l'écriture pour Cléa. Donc finalement, ce sont les trois aspects, je dirais, illustré par trois femmes, trois facettes de femmes différentes, qui représentent un homme en quête d'une unité pour laquelle la bisexualité est très importante. Je vous rappelle qu'il y a une citation, je ne sais plus dans lequel des quatre volumes, qui est une citation tronquée de Fliss, ou de Freud à Fliss, parlant de la bisexualité. Et je crois que c'est un thème très important dans l'œuvre de Durel, qui nous montre bien qu'il y a un monde philosophique qui est en train de se créer, et que là aussi nos divisions en, j'allais dire, en cinq sexes ou autres, c'est une simplification terrible, finalement, du monde dans lequel on vit.
Oui, certainement. Et même Béatrice Comanger, il y a aussi dans les personnages, dans le personnage de Cléa notamment, déjà justement cette bisexualité, ce rapport qui est à la fois à l'art et à la sexualité aussi complètement médiatisé par la création, le désir qu'on paye finalement extrêmement cher dans la vie, comme si Alexandrie finalement vous faisait payer aussi vos désirs. Oui. C'était un peu une machine qui détruit aussi ce qu'elle crée, ce qu'elle aime à la fois.
Oui, Cléa, c'est effectivement la créatrice, c'est la seule femme qui crée. Et moi, ce que je ressens quand même dans ce livre de Cléa, c'est une forme de sérénité. Il y a quand même, on peut presque employer le mot amour avec Cléa. C'est pas simplement l'écriture, Cléa. Moi, je crois que c'est vraiment l'amour. Et bon, peut-être je suis un peu influencée par sa vraie vie. Et là, il y a une Durel, par exemple, quand il lui envoie Cléa, il lui dit « Chaque fois que je vois Cléa, je dis Claude ». Et là, il a un peu tort, parce que le personnage est quand même un peu différent, mais je crois
Claude
qu'il écrit... Claude étant la dernière, enfin, pas la dernière, loin de là, mais disons la seule femme où il a eu un peu, enfin, l'impression, bon, d'une union véritable, quoi, et qui a malheureusement été emportée très vite, enfin 10 ans, je crois, qu'ils ont, par un cancer très foudroyant. Et Claude, il a écrit quand même Cléa, c'est le dernier, à ses côtés, enfin, ça a fini par transpirer. D'ailleurs, c'est même les 5 ans, parce qu'au final, au début, elle ne la connaît pas. Quand il commence Justine, elle ne lui est pas encore tombée dans les bras. Dans une lettre à Durel, il dit « Il y a une Alexandrine qui m'est tombée dans les bras, elle n'est pas ennuyeuse ». Enfin, je ne sais pas, il lui trouve toutes les qualités, mais c'est quand même tard.
Alors, il y a un aspect du quatuor, des quatre romans sur lequel j'aimerais qu'on revienne un peu, Robert Solé, c'est sur son aspect politique et son côté roman d'espionnage. Parce que c'est aussi quand même ce qui fait un peu la matière, plutôt l'intrigue, ou en tout cas une des tensions du Quatuor, c'est son rapport avec l'histoire, avec ce qui se passe dans les années 40, avec notamment la présence, bien sûr, de la Grande-Bretagne et les manigances, on va dire, de l'époque, juste avant, à travers l'espèce de complot qu'on va deviner autour de la personnalité de Nessim, et puis les Anglais, la Grande-Bretagne pendant la guerre, et la fin de ces années farouques, en réalité, pas tout à fait la fin, puisque la révolution sera qu'en 1952, mais enfin, on est quand même dans le crépuscule, on va dire, de la monarchie égyptienne.
Oui, il faut rappeler où on en était. C'est l'Égypte, dans l'entre-deux-guerres, est à la fois un pays officiellement indépendant. Ce n'est plus un protectorat anglais, mais les Anglais, les troupes anglaises sont toujours là et elles campent notamment dans le canal de Suez, dans la région de Suez. Et l'Égypte compte évidemment des musulmans, une majorité de musulmans, et des chrétiens coptes, dont Nessim, un des personnages importants du Quatuor. Les coptes ne sont pas un produit d'importation, ce sont des Égyptiens de souche. Il n'y a rien de plus égyptien que les coptes. Et là, effectivement, dans le Quatuor, ça a choqué en Égypte, évidemment, il y a une sorte de complot copte. Il y a un complot copte très compliqué, etc., qui ne va pas aboutir, d'ailleurs. Alors, il y a les coptes, il y a les musulmans, il y a les Anglais, tout ça est très compliqué, ça n'aboutira pas, heureusement. Voilà, on ne peut pas tout raconter, c'est trop compliqué, hein, c'est trop long.
Mais il y a quand même justement dans le roman un aspect, pas roman historique, mais en tout cas qui s'appuie quand même sur ce que lui-même a pu observer, et notamment les diplomates, par exemple, ce monde assez extraordinaire des diplomates britanniques et français présents à Alexandrie. Bon, dans la réalité, on sait que Laurence Duval était plus au Caire qu'Alexandrie, mais néanmoins, ce milieu diplomatique extrêmement truculent qui nous décrit est sans doute un des aspects les plus vrais au sens d'une certaine réalité, je pense, d'observation en tout cas, oui, qu'il y a dans le roman.
Bien sûr, surtout avec son ironie à lui, n'est-ce pas ? Et puis il arrive à un moment très particulier quand même. Il débarque en Égypte en pleine Seconde Guerre mondiale, on y a fait allusion tout à l'heure. Les Anglais et les Italiens sont aux portes de l'Égypte, ils ont franchi la frontière, ils ont repris Tobrouk en Libye aux Anglais, ils sont à 100 kilomètres d'Alexandrie. Et Alexandrie, quand Durrell est en Égypte, c'est la panique. Les Juifs s'en vont, beaucoup de Juifs s'enfuient en Palestine. Des Égyptiens sont prêts à attendre Rommel avec des banderoles. Bienvenue à Rommel. Pourquoi ? Parce que les Allemands ont promis aux Égyptiens l'indépendance complète. Donc il arrive, il vit quand même un moment très très noir, très compliqué. L'ambassade britannique est en train de brûler ses archives. Elle a peur de l'arrivée des Allemands. Heureusement, Montgomery va arrêter les Allemands à El Alamein. Et donc Durrell a vécu aussi tout ça. Enfin, il l'a vu de près.
Corinne Alexandre-Germer.
Il l'a vu de près et je crois qu'il l'a vu même de très près. On n'a pas beaucoup parlé et je pense que s'il y a encore un aspect à creuser, c'est bien celui-là. On a parlé de Durrell espion. Durrell, il n'a pas été juste envoyé à Alexandrie pour rien. Il parle le grec couramment. Si je me souviens bien, il y a eu des brigades communistes qui ont été enfermées dans des camps dans le désert. Si je me souviens bien aussi, il y a eu beaucoup de tracts qui ont été envoyés dans le désert. Et si je me souviens bien, on n'en a pas beaucoup parlé. Et j'ai fait quelques enquêtes à travers des amis diplomates qui me disent que ce serait intéressant d'avoir accès aux chiffres. Parce qu'ils faisaient des notes. Et ils ne faisaient pas juste des notes pour les Égyptiens. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans le Quatuor, effectivement, et je vous parlais tout à l'heure de cet autre roman, Judith, que personne n'a lu, le fond politique et le fond, j'allais dire, de thriller, parce que c'est quand même, après tout, le Quatuor d'Alexandrie, c'est bien ça. Qu'est-ce que faisait Justine avec Nessim, si ce n'est un trafic d'armes ? Alors, au profit de qui ? C'est une bonne question qui n'est jamais vraiment résolue. Et tout ça reste très énigmatique. Et la position de Durrell par rapport aux pays dans lesquels il s'est trouvé se retrouve posée à Chypre. C'est là où il écrit le Quatuor d'Alexandrie, mais c'est là aussi où il écrit un certain nombre de récits et où il est extrêmement critique de la position britannique. Alors c'est étrange parce que espion, pas espion, loyal à la couronne ou déloyal à la couronne ? En fait,
peu de gens se sont posé la question et ont été suffisamment loin dans leur recherche. Parce que c'est un vrai... Il faut relire hein, le livre sur Chypre. Citron acide.
Sur ce côté roman diplomatique, on va dire,
Je sais pas si peut-être parce qu'il justement, on ne sait jamais de quel côté. Si moi, je me suis toujours demandé en lisant aussi bien même Chypre aussi, s'il était vraiment contre, parce qu'il est plutôt critique en général de l'Angleterre. Mais pour le Quatuor, pour moi, ça a toujours été un peu secondaire parce que je trouve qu'on n'y comprend pas grand chose, quoi, juste. Compliqué.
Oui, il ne comprend pas grand-chose à quoi.
Toutes ces histoires d'espions, de trafic d'armes. Enfin,
Parce qu'on comprend que Darley s'est fait avoir, ça oui. Oui, que justement voilà. Lui n'y comprend pas grand-chose.
Voilà, ça, c'est ça. C'est un petit peu ce qui arrive, même aujourd'hui. On croit qu'on a compris les fils et puis on s'aperçoit que finalement, il y avait des manigances par derrière. Enfin, pour Nessim et Justine, c'est tout à fait ça. Et tout d'un coup, il se dit, mais pourquoi elle l'a séduit? C'est peut-être pour voir.
Voilà. Il croit exactement. Il croit au grand amour.
Voilà.
Et il se rend compte qu'il est une pièce dans la conspiration. Pièce,
c'est ça, exactement.
Mais néanmoins, oui, il a fabriqué quand même de magnifiques personnages de diplomates. Tout cela. Mmh. On pense notamment au français Pombal. Parlons un peu de ce magnifique personnage libidineux, horrible, mais très drôle, extrêmement sympathique.
C'est comme après, il le fera la même chose à Belgrade. Et c'est très bon, ces petits livres sur sa vie. De diplomate Durell. Je trouve qu'il a
Esprit de corps le troisième. J'ai oublié le titre du troisième. Enfin, ce sont des livres qui sont d'une drôlerie incroyable.
Mais il y a des passages très drôles dans le Quatuor, justement, sur la description de ces diplomates. Montolive, d'ailleurs, qui est un peu la partie du Quatuor consacrée.
Je dis raconter parce qu'il met en exergue une citation de Stendhal qui dit le roman doit raconter. Je sais plus. En gros, ça veut dire.
Et là, Montolive, effectivement, ça raconte ces fameuses histoires d'intrigues diplomatiques. Plus ou moins de cours, puisque à Alexandrie, en fait, Robert Solé, les consuls qui sont là depuis les capitulations ottomanes ont un rôle extrêmement important et on voit justement le portrait de cette société diplomatique alexandrine est assez fascinant.
Les consuls ont eu une importance extrêmement importante au 19e siècle. Il y avait la place des consuls qui était la place centrale d'Alexandrie où il y avait les consulats, les paquebots, les compagnies de paquebots, les hôtels, etc. Mais Alexandrie a ensuite été détrônée par le Caire et les consuls se sont déplacés au Caire ensuite. Et de toute façon, Durell se trouve entre le Caire et Alexandrie, les deux. Mais je veux dire, il ne faut pas trop chercher à essayer de comprendre même les personnages. Parce que pour Durell, toutes les vérités sont relatives. Voilà. Tout le monde est une énigme, au fond. Les personnages sont une énigme. Alexandrie est une énigme. L'amour est une énigme. Pour Durell, il ne faut pas trop chercher. Est-ce que nous retenons, nous aussi, c'est d'autres choses. On a parlé de l'amour, de la mort. C'est fou ce que c'est lié. C'est ça, moi, qui me frappe surtout. J'avais noté, c'est incroyable, tous ces corps malades, blessés, mutilés, tous ces personnages. Il y en a un qui perd un œil, l'autre qui perd une main, l'autre qui perd un doigt, un nez, l'autre qui est aveugle, etc. Ça aussi, ça... Pourquoi ce lien entre la sexualité et la mort, finalement, à ce point?
La castration et la création, surtout, je crois.
On va se quitter sur cette énigme d'Alexandrie et puis aussi en musique, sur une chanson très alexandrienne. Une dernière remarque.
Oui, moi je crois que ce quatuor, il nous dit que faut-il perdre pour vivre, pour créer et pour aimer. Voilà.
Et puis on dit adieu à Alexandrie qui s'en va et on dit adieu à Alexandrie qui nous quitte.
Moi j'avais envie de terminer sur une citation de Durell. Parce que justement, qui est dans la bouche de Pierce Warden, et dire Pierce Warden avait finalement compris que ce qu'il fallait saisir dans une œuvre, c'est la tendresse qu'il y avait au fond de toutes les choses telles qu'elles sont. C'est le mot tendresse. Je voudrais finir sur le mot tendresse parce que je trouve qu'il correspond bien à Durell. La tendresse et le rire.
Nous allons finir tendrement en riant et en musique. Merci Robert Solé, merci Corinne Alexandre Garner, merci Béatrice Comanger de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée au Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Elle est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Dofar Guéride à la technique aujourd'hui. Un immense merci à Pierre Chabert qui m'a aidé à la préparer. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour une émission consacrée à Vie et Destin de Vassily Grossman. À demain. اسكندراني رماني الشوق يا وين فرقني عالمواني دوبني كل دعاه يا وين يا اسكندراني رماني الشوق يا وين فرقني عالمواني دوبني كل دعاه ده انا قلبي اسكندراني وعيوني اسكندراني وهوايا اسكندراني حبيبي اسكندراني ده انا قلبي اسكندراني وعيوني اسكندراني وهوايا اسكندراني وحبيبي اسكندراني
اي وقت يا اسكندراني تعرفني تقول لي بس قلبك بيقول لي بالي ومحدش فيا حس
اي وقت
يا اسكندراني تعرفني تقول لي بس قلبك بيقول لي بالي ومحدش فيا حس
اسكندراني ده انا قلبي اسكندراني